Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, cette horloge donne 10 heures juste, donc nous pouvons reprendre après ces deux semaines d'interruption le cours jusqu'à la fin du mois de décembre. La semaine prochaine, évidemment, la même horaire, de 10 heures à midi, nous avons un cours. Je voudrais, avant de commencer l'exposé d'aujourd'hui, rappeler qu'un collègue espagnol, Fernando Bausa, qui est professeur à l'Université Complutense de Madrid, donnera, dans le cadre d'une chaire d'État, 4 conférences sur les thèmes liés aux pratiques de l'écrit dans l'Espagne du siècle d'or. Les dates en sont sur le tableau, elles doivent être aussi affichées dans différents endroits, 26 novembre, 10 décembre, 15 et 17 décembre, toujours à 11h et toujours dans l'amphithéâtre Budé. C'est donc la semaine prochaine, mercredi, que commencera la première conférence de cette série de 4 et qui a pour titre « Écrire pour les sens, toucher, goûter, voir, écouter l'écriture », c'est-à-dire des rapports à l'écriture qui ne sont pas nécessairement des rapports liés à la lecture du texte écrit, mais qui sont liés à des métaphores de sa consommation ou qui sont liés à la puissance inhérente à sa présence. Alors je reprends donc le fil de notre intrigue. Vous vous souvenez que la discussion que j'essaye de mener, c'est de savoir quel est le rapport que l'on peut établir entre deux pièces, l'une 1613, perdue, jamais publiée, jamais imprimée, aucun manuscrit ne survivant, et qui est le Cardenio représenté à la cour d'Angleterre en 1613 et dont en 1653, un libraire de Londres, Humphrey Mosley, entend obtenir, et l'obtient, un writing copy pour publier la pièce. Il ne le fera pas, mais dans le registre de la compagnie des libraires et imprimeurs de Londres, il en indique les auteurs « by Master Fletcher and Shakespeare ». Quel est le rapport donc entre cette pièce perdue, qui est l'objet de l'enquête, et une pièce qui, elle, existe et que nous pourrons lire à partir de la semaine prochaine et qui a pour titre « Double Falsehood », la double imposture de Lewis Theobald, représentée en 1727, publiée en 1728. Et les rapports qui permettent de lier ces deux pièces, l'une perdue, l'autre existante, sont d'une part le fait que Cardenio, de 1613, ne pouvait que renvoyer à l'histoire des amants malheureux puis réconciliés dans le Quichotte, et qu'on retrouve la même histoire avec des noms différents pour les personnages dans The Double Falsehood. Il est donc clair que l'intrigue de la pièce de Theobald, ou Tybald, qui est le nom que va lui imposer son ennemi Pope, est une pièce qui repose sur la même histoire d'amour, de désamour et finalement d'union qui est celle racontée par Cervantes dans la première partie du Quichotte. Et que le lien s'établit entre cette histoire dans la pièce de 1613, telle qu'on peut l'imaginer, et dans la pièce de 1727, telle qu'on peut la lire, par le fait que, j'y viendrai, Théobald prétend qu'il possède des manuscrits de la pièce de 1613 et que donc son texte de 1727 est une adaptation, une révision de ce texte perdu pour lui de Shakespeare. Voilà donc le cadre de la recherche, comment construire cette relation entre ces deux pièces. Et vous vous souvenez que j'avais commencé par une analyse de ce que l'on doit toujours faire devant un texte ancien, c'est-à-dire une grande attention donnée à la page de titre. Et dans cette page de titre de 1728, il y a deux éditions de la pièce au début de l'année 1728. Elle a été représentée pendant une dizaine de représentations successives à partir de décembre 1727. On rencontre le titre, « The Double Falsehood of the Distressed Lovers », le fait qu'elle a été jouée sur le théâtre de Drury Lane, la troupe du Theatre Royal, et que, comme l'affirmait Théobald, elle a été written originally by William Shakespeare. Elle a été écrite originairement par Shakespeare et maintenant révisée et adaptée par Théobald. On y rencontre aussi sur cette page de titre deux autres indications, un vers de Virgile que l'on peut traduire comme « Ce qu'aucun dieu n'aurait osé promettre à nos prières, voyez, le temps nous l'a apporté sans que nous le demandions », c'est-à-dire une référence ici à la pièce redécouverte que aucune prière ne pouvait supposer faire revenir, mais que le temps a rendu possible. Et d'autre part, l'adresse de l'imprimeur John Watts, qui, on verra, est très lié avec le libraire-éditeur Thomson, qui est l'éditeur des œuvres de Shakespeare depuis l'édition de 1709, en passant par celle qu'avait critiquée Théobald de 1725 de Pope. Lorsqu'on entre dans le texte imprimé de 1728, on rencontre dans les préliminaires, c'est-à-dire tous les textes qui précèdent la première scène du premier acte de Double Falsehood, comme il se doit d'abord une dédicace, a dedication, à un des puissants nobles du parti Whig. Vous vous souvenez que j'avais essayé de montrer que Théobald était très lié avec le parti Whig, George Doddington. Et cette dédicace, comme il est d'usage, emploie les ressources classiques d'une rhétorique de la louange. Ce Doddington est loué par Théobald à la fois pour sa distinction in polite letters, pour sa distinction dans les lettres, et aussi pour sa générosité, l'appui généreux, generous encouragement, qu'il donne à ceux qui s'adonnent aux lettres. Mais au-delà de ces formules usées jusqu'à la corde, qui sont celles des textes de dédicace, il y a deux éléments plus importants qu'introduit d'entrée avec cette dédicace Théobald. Pour lui, il s'agit d'abord d'affirmer l'authenticité shakespearienne de cette pièce qu'il dit avoir révisée et adapté. Et de là, toute une série de désignations du texte qui renvoient à la fois au vocabulaire qui identifiait la production textuelle avec des relations familiales et aussi tout un vocabulaire qui est un vocabulaire aussi de la sacralité. La pièce est désignée comme « orphan play », une pièce orpheline, mais aussi comme « the dear relic », une chère relique. Et finalement, c'est ce mouvement du début du XVIIIe siècle où le vocabulaire du sacré, du religieux, va s'appliquer aux œuvres et à la personne de Shakespeare. Et il y a un vocabulaire archéologique aussi, « this remnant of his pen », ce vestige de sa plume. Donc, une manière de désigner la pièce pour la situer dans ses multiples contextes, et en particulier dans ce contexte du texte retrouvé comme un texte perdu de l'Antiquité, « This remnant of his pen », et d'autre part un texte qui doit être chéri comme l'est une relique religieuse. Et d'autre part, le second dessein de Théobald est de convoquer l'autorité de Doddington, c'est-à-dire une parole aristocratique, pour authentifier ses dires quant à l'origine shakespearienne de cette pièce qu'il a révisée et adaptée. On trouverait là un thème fondamental du début du XVIIIe siècle, et même auparavant, bien sûr, lorsque le poids de vérité est très étroitement lié avec la parole aristocratique. La parole aristocratique supposée désintéressée a une force pour authentifier ce qui est ou ce qui fut que d'autres paroles n'ont pas. C'est un trait qu'on rencontre par exemple dans la philosophie naturelle, c'est-à-dire la certification puissante d'une expérience par le témoignage aristocratique. Les historiens des sciences, comme Chépin, nos chefs, ont montré cela, ce qui explique pourquoi beaucoup d'expériences sont localisées dans des demeures ou des palais aristocratiques, et ce qui suppose aussi que dans les récits d'expériences, la parole de ceux qui ont vu, mais s'il s'agit d'une parole autorisée par le fait qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier économique lié avec la découverte scientifique, donne un poids d'autorité, un poids d'authentification à l'expérience. C'est cette relation entre parole aristocratique, d'Addington, et authentification d'une vérité, la pièce est originairement une pièce shakespearienne, que déploie Théobald dans sa dédicace, et il renforce ce déploiement qui met en œuvre un trait classique de la preuve au XVIIe et encore au début du XVIIIe siècle, en traçant un parallèle entre le comte de Southampton, auquel Shakespeare avait dédié ses deux poèmes, publiés au tout début de sa carrière d'écriture, « Vénus et Adonis » et « Le viol de Lucrèce » 1593-1594, qui sont dédiés donc à un protecteur, le comte de Southampton, et d'Addington, qui pourrait être un protecteur plus tardif de cette pièce retrouvée, de cette relique sauvegardée qu'est Double Falsehood. Théobald écrit « Les temps futurs se souviendront de dire que Mr. Duddington fut l'ami de Cérès, S-E-S, is, reste, c'est-à-dire de ce qui reste de Shakespeare, tout comme Southampton l'était de son mérite lorsque lui, Shakespeare, était vivant. » Et donc, c'est la mobilisation de cette parole aristocratique pour donner de la crédibilité, de l'authentification à cette affirmation de Théobald, contre, dit-il, toutes les censures de ces incrédules « unbelievers » qui pense qu'il est impossible qu'un manuscrit de Shakespeare ait pu demeurer si longtemps dans le sommeil. Et on a là un trait que l'on va retrouver dans un autre des textes préliminaires, qui est le privilège donné par le roi le 5 décembre 1727 pour la publication de la pièce, c'est-à-dire un privilège obtenu avant même la première représentation qui est du 14 décembre. C'est là un cas tout à fait exceptionnel, le fait qu'un privilège royal soit donné pour un texte qui appartient à un genre aussi peu digne et noble qu'une pièce de théâtre. Je l'avais rappelé la fois dernière, le système de publication des textes dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles est dominé par la communauté des libraires et imprimeurs qui a gardé le vieux nom médiéval de Stationers, la Stationers Company, qui depuis le milieu du XVIe siècle est cette autorégulation de la publication par la communauté. Tout libraire ou tout imprimeur qui entend obtenir un writing copy sur un texte le fait enregistrer par la communauté des libraires et imprimeurs, ce qui entraîne normalement l'impossibilité pour ses confrères de publier la même œuvre, et pour lui une revendication, au moins jusqu'en 1710, d'une propriété perpétuelle sur le texte qu'il a fait ainsi enregistrer, entered. Et cette propriété lui permet à la fois de transmettre son writing copy à ses héritiers, de diviser avec un autre libraire et imprimeur, de vendre ce writing copy. C'est là le mécanisme dominant de la publication des textes dans l'Angleterre de la première modernité. En parallèle, existe un régime qui lui dépend totalement, comme ce serait le cas en France ou en Castille, qui est lié avec le privilège que peut concéder le monarque pour la publication d'un texte, ce qui apparaît sur un certain nombre d'éditions, mais en général pour des textes nobles, prestigieux, que, avec la mention dans l'imprimé de « cum privilegio regis », avec « privilège du roi ». Le fait a beaucoup étonné de voir que, d'une part, dans l'édition de la pièce de Théobald se rencontre ce régime, il n'a pas demandé un « writing copy » qui, à partir du début du XVIIIe siècle, se désigne comme copyright à la Stationer's Company, mais il a demandé un privilège royal qu'il a obtenu. Et le deuxième fait étonnant est le fait que dans une édition modeste comme celle d'une pièce de théâtre, ce privilège royal est publié intégralement et non pas seulement indiqué par la mention avec privilège du roi, cum privilegio regis. Et le privilège apparaît ainsi, en pleine page, avec surmonté par les armes du roi. Alors pourquoi ? La raison n'est pas commerciale, puisque le privilège est donné par le roi pour 14 années, c'est-à-dire la même durée que les copyrights à partir de 1710. En 1709-10, il y a une réforme profonde du régime de publication de la Stationer's Company, qui est impliqué par un nouveau texte royal voté par le Parlement, qui est le statut de la reine Anne, et qui limite à 14 années le writing copy. Et normalement, après les 14 ans, ou 21 ans si l'auteur est encore vivant, tout libraire ou tout imprimeur pourrait réimprimer, republier le même texte. C'était une volonté de la part de la monarchie de briser cette revendication des libraires et imprimeurs de Londres d'avoir un droit perpétuel, imprescriptible, sur les œuvres qu'ils avaient « entered » et pour lesquelles ils avaient obtenu un « writing copy » transformé en « copyright » à partir de la première décennie du XVIIIe siècle. De fait, les libraires et imprimeurs de Londres vont combattre très férocement et avec l'aide de leurs avocats contre ce qu'ils considèrent comme une destruction de leurs droits traditionnels. Mais normalement, le régime de la publication de la Stationer's Company est désormais de limiter à 14 ans la propriété sur les textes. Donc, le privilège royal qui donne aussi un monopole pour 14 ans n'avait pas d'avantage économique par rapport à ce qu'aurait été un copyright demandé par Théobald. Le seul trait est que le privilège royal a une formule qui insiste lourdement sur ce monopole quant à la publication de la pièce. Je cite en traduction, l'insistance est portée sur l'interdiction, je cite, pour tous nos sujets dans nos royaumes et dominions, de réimprimer la pièce, soit à l'identique, soit dans quelque autre forme que ce soit, ou de quelque manière, ou d'en importer, acheter, vendre, circuler, distribuer aucun exemplaire réimprimé au-delà des mers, durant le délai mentionné de 14 ans, sans le consentement du dit Lewis Theobald, ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou représentants. Simplement donc un poids d'autorité, celle du roi, donné à l'interdiction de toute réimpression, quelle qu'en soit la forme, de la pièce pour laquelle il a obtenu un privilège en 1727, le 5 décembre. Mais ce n'est donc pas une raison économique ou commerciale qui peut justifier cette demande inattendue et cette réponse non moins inattendue du roi qui accorde un privilège royal pour une pièce de théâtre. L'important est évidemment ailleurs, il est dans ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire le fait qu'avec ce privilège, d'une certaine manière, Théobald fait endosser au roi la reconnaissance de l'authenticité du texte. Puisque le texte du privilège royal reprend les termes mêmes de la requête, de la demande de Lewis Theobald. Et du coup, le roi se porte garant de cette autorité shakespearienne. Je cite « Lewis Theobald », c'est le texte du privilège, « de notre cité de Londres, gentleman, nous a humblement représenté qu'il avait fait une dépense considérable pour acquérir la copie manuscrite d'une pièce originale de William Shakespeare intitulée « Double Falsehood or the Distressed Lovers ». et qu'il avait, avec grand travail et peine, révisé et adapté cette pièce pour le théâtre. Et il nous a humblement demandé de lui accorder notre privilège royal et licence, Royal Privilege and License, pour l'impression et publication de cette pièce pour une durée de 14 ans. Voilà donc qu'à la fois, il y a une petite histoire de la transmission du manuscrit, puisque le texte fait référence à ce qu'avait affirmé Théobald, c'est-à-dire qu'il avait acquis et à grand prix un manuscrit de cette pièce shakespearienne, et que d'autre part, le texte du privilège reprenant le texte de la requête de Théobald fait du roi le garant de l'authenticité shakespearienne de Double Falsehood. Et on voit aussi immédiatement le problème qui est posé, puisque la pièce de Shakespeare est intitulée du titre que Théobald a donné à sa pièce « Double Falsehood ». Il n'est pas question du Cardenio de 1613, il est question d'une fiction comme si la pièce de 1600, la pièce perdue, la pièce retrouvée de Shakespeare avait eu comme titre « Double Falsehood ». Il y a là donc une première surprise dans cette édition 1728 qui est la présence de ce privilège royal. Il y a une deuxième surprise qui, elle, est liée à un contrat de vente que Théobald va passer en juillet 1728 avec l'imprimeur John Watts et qui cède à John Watts le texte de Double Falsehood. C'est un document qui a été retrouvé à la Folger Library le 31 juillet 1728 dans un contrat sous sein privé. Lewis Theobald cède à John Watts, l'imprimeur de 1728, son right and title, half in and hand, to the copy of a play intitulé Double Falsehood. Il lui cède son droit et titre sur, dans et en rapport avec l'exemplaire d'une pièce intitulée Double Falsehood or the Distressed Lovers, et il est rappelé, écrit originairement par William Shakespeare et maintenant révisé et adapté pour la scène par Lewis Theobald. Alors, le contrat est assez. Cette cession, le texte de la cession est assez surprenant pour deux raisons. L'une, il est dit que John Watts aura la propriété de la pièce, il pourra have and hold the said copy pour toujours, indépendamment de tout texte ou loi qui lui soit contraire. C'est le rappel de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'en dépit du statut de 1710, en dépit du texte du privilège qui limitait à 14 ans la durée du monopole que Théobald avait obtenu et maintenant qu'il a cédé à Watts sur la publication de la pièce, en dépit de cela, texte royal ou régulation de la Stationer's Company, les libraires et imprimeurs de Londres continuent à clamer le fait que lorsqu'ils ont un copyright sur une œuvre, c'est comme à titre de propriété perpétuelle et imprescriptive. Et donc, dans ce document, il est rappelé cela. Malgré les 14 ans de la législation de la Stationer's Company ou du privilège donné par le roi à Theobald, Watts sera propriétaire forever, pour toujours, de ce texte. Et le deuxième trait est le fait que dans cette cession, le prix de cession, enfin l'argent reçu par Théobald, est tout à fait considérable, 100 guinées, c'est-à-dire une somme incommensurable par rapport à ce qui était en général les sommes liées à des transactions sur un texte particulier. Pourquoi cette somme tout à fait considérable? Certains ont pensé que peut-être parce que avec la cession du texte de Théobald allait de pair la cession d'un ou de ce manuscrit qu'il prétendait avoir acheté à très, très grand prix. Donc du coup, ce qui serait transmis ne serait pas seulement le texte de Théobald que l'on peut lire, nous, aujourd'hui, mais aussi le manuscrit premier qu'il a adapté et révisé. Peut-être aussi le fait que cette somme s'explique parce que Watts agit pour... Il est imprimeur. agit pour les intérêts du libraire Jacob Tonson, qui, lui, est soucieux de ne laisser aucun texte shakespearien ou supposé tel en dehors de son copyright qu'il a acquis sur les works, les œuvres de Shakespeare, à partir de l'édition de 1709. On a donc là une raison de la, peut-être, de cette cession à un prix exorbitant par rapport aux usages du temps. On voit donc que le premier dispositif des préliminaires, et qui est lié à la fois à la dédicace de Théobald à Doddington et d'autre part à la présence imprimée du privilège royal, est d'essayer, contre ceux qui sont incrédules, unbelievers, par rapport à l'affirmation que cette pièce a été écrite originairement par Shakespeare, de les persuader du fait de la garantie de la parole aristocratique et mieux encore de la parole royale, de l'authenticité shakespearienne de Double Falsehood. Et l'on rencontre ensuite la préface de The Editor, Théobald se présentant non pas comme l'auteur de Double Falsehood, mais comme l'éditeur, au sens anglais, editor, editing d'une pièce, c'est-à-dire la révision et l'adaptation du texte premier pour la scène. Et cette préface est évidemment, elle, très tournée vers le projet de répondre à ce qui circule à partir des premières représentations, c'est-à-dire les doutes émis par les incrédules, les unbelievers, quant à l'authenticité shakespearienne de la pièce adaptée et révisée par son éditeur, Lewis Theobald. Les attaques, d'ailleurs, ont été publiées de manière postérieure aux premières éditions. Ce à quoi fait allusion Théobald, c'est évidemment des rumeurs, des bruits qui circulent autour de la pièce. Et qui en est l'auteur principal, c'est évidemment le Pope, qui était tout à fait furieux des attaques que Théobald avait publiées en 1725 contre sa propre édition de des Works of Shakespeare, publiée en 1725 et une seconde édition en 1728. Mais l'attaque contre l'édition de 1725 qu'avait mené Théobald dans son Shakespeare Restored, Shakespeare restauré, contre les erreurs, les bévues, les imperfections de l'édition de Pope, avait laissé évidemment très mauvais souvenir à Pope, et qui va profiter de la représentation puis ensuite de la publication de Double Falsehood pour se venger de Théobald. Et vous vous souvenez que derrière cet conflit personnel, il y avait des enjeux plus importants, certains des enjeux étant directement liés à l'appropriation de Shakespeare dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle par différents partis politiques, celui du roi et des Whigs et celui des opposants auxquels Pope était très étroitement lié. Et il y avait un deuxième enjeu qui était l'enjeu de l'édition elle-même. Doit-on éditer un texte à partir de critères qui sont des critères esthétiques, qui était la position de Pope, ou doit-on éditer un texte à partir de critères érudits, philologiques et bibliographiques, qui était la position de Théobald, accusé du coup de trahir les beautés du texte au nom d'une érudition inerte et desséchée. Alors du coup, Pope fait circuler des jugements tout à fait incrédules sur la pièce de Théobald. En mars 1728, c'est-à-dire un peu après la seconde édition de la pièce, dans un volume de Miscellanies qu'il édite avec Swift, et qui s'appelle Peribatus, c'est un mot grec qui est un jeu avec une référence parodique au texte de Longin, le traité du sublime, ici de la profondeur, et avec en sous-titre The Art of Sinking Poetry, l'art de faire couler la poésie. Et c'est un texte ironique contre toutes les formes obscures et pédantes de la poésie, qui ainsi est profonde, mais elle est profonde au sens d'un navire qui aurait coulé au fond des eaux. Et dans ce texte Peribatus, ou The Art of Sinking Poetry, Pope se moque de Théobald. Il appelle la pièce d'ailleurs The Double Distress, et non pas The Distressed Lover, Double Falsehood, et il en ridiculise certains des vers qui pour lui sont l'illustration parfaite de cette profondeur, mais une profondeur identifiée avec l'obscurité du fond des eaux. Et il y aura toute une discussion autour d'un des vers à la scène 1 de l'acte 3, dans la pièce de Théobald, donnée au personnage de Julio, c'est-à-dire le Cardenio de Cervantes, « None but itself can be his parallel ». Et ce « itself » paraît à Pope le sommet de l'obscurité et d'un certain sens d'un galimatia. Et en avril 1729, il va donner une forme écrite à ce qui était une rumeur qui avait circulé auparavant et qui considère, et il s'agit là du texte de Pope qui en 1728 a publié « The Dunciad », et dans laquelle Théobald est le roi des sceaux, the king of the dancers. Et en 1729, il publie un volume qui est une réédition, mais ajoutant des notes, la Dunciad Variorum, dans lequel Pope insinue que Double Falsehood est en fait une falsification, a forgery, et que Théobald ne possède aucun texte du XVIIe siècle et qu'il a écrit lui-même en faisant passer sa propre écriture comme une adaptation d'une pièce shakespearienne, Double Falsehood, ce qui va ouvrir la voie à, j'y reviendrai tout plus tard, à la considération de cette pièce, Double Falsehood, et des déclarations de Théobald comme en fait appartenant au monde d'une falsification, d'une supercherie littéraire. Alors, Théobald doit, même si ces deux attaques de Pope, celle de Peribatus, qui est Théobald est un écrivain pédant et obscur qui illustre parfaitement la profondeur au sens très négatif du terme de l'écriture poétique, et ensuite Théobald est un faussaire qui a prétendu adapter une pièce shakespearienne qu'en fait il a écrite entièrement. Même si ces deux accusations vont être portées par écrit plus tard, elles circulent dès la fin de 1727 et Théobald, dans sa préface, doit y répondre. La préface s'ouvre par une double dénégation, genre classique dans les préfaces, c'est-à-dire ce texte n'a pas besoin de préface, mais néanmoins, je vais en écrire une, dit l'auteur. La première dénégation est de dire le texte n'a pas besoin de préface, puisque le succès des représentations atteste l'approbation du public. 10 représentations entre le 13 décembre 1727 et le 9 janvier 1728 et 3 reprises pendant l'année 1728. Et d'autre part, deuxième dénégation, la pièce n'a pas besoin de préface puisque l'approbation des lecteurs distingués lui a été donnée. Théobald écrit pour ne rien dire de la réception que cette pièce a trouvée auprès de grands juges, great judges, et great dans le sens social, aristocratique, auquel j'ai eu l'honneur de communiquer mon manuscrit. Et il fait allusion ici à la comtesse d'Oxford, auquel la pièce avait été adressée le 10 décembre 1727. Il y a une lettre qui attestent de cet envoi, 4 jours avant la première, et sans doute peut-être d'autres manuscrits circulant auprès d'autres aristocrates, particulièrement du parti Whig. Il y aurait donc là 2 raisons tout à fait suffisantes, un peu à la Corneille, pour rendre inutiles les préfaces. Le succès du public mesuré par l'accueil sur le théâtre, et d'autre part, le jugement non pas de la cour, mais des great judges, c'est-à-dire des lecteurs aristocratiques qui ont eu connaissance du manuscrit avant même les représentations. Pour lui, donc, il y aurait là des raisons pour rendre toute préface inutile et d'autre part pour évacuer, dissiper tout doute quant au fait qu'elle est bien « a production of Shakespeare », une production de Shakespeare. Pourtant, il fait allusion à ces « flying objections », c'est-à-dire ces rumeurs, ces objections en forme de rumeurs qui circulent dans l'air du temps et qui l'obligent à écrire une préface en forme de réponse aux 3 arguments essentiels qui sont opposés à sa pièce. Alors le premier argument des unbelievers, de ceux qui n'y croient pas, était de considérer qu'il était absolument incroyable, incredible, qu'une telle curiosité, qu'une telle relique, qu'un tel reste ait pu être perdu pendant plus d'un siècle alors que cette relique est attribuée au plus grand poète national. C'est la formule qui s'impose sur Shakespeare à partir du début du XVIIIe siècle. Alors la réponse ici est une réponse de type matériel, puisque Théobald affirme posséder 3 manuscrits de la pièce, sans d'ailleurs qu'il mentionne quel est le titre, s'il y en a un, qui est porté sur ces manuscrits. Le premier manuscrit dont il parle est le plus ancien, « is above 60 years standing », c'est-à-dire qu'il a 60 ans pour un texte donc, qui est écrit en 1727, on est renvoyé à un manuscrit de la décennie 1660, ce qui est tout à fait évidemment pertinent puisque c'est dans cette décennie, à partir de l'année 1660, que les théâtres qui avaient été fermés par la Révolution anglaise à partir de 1642 sont rouverts et que 2 troupes obtiennent les monopoles sur les représentations reprises des pièces de théâtre, et en particulier du répertoire ancien, antérieur à la Révolution, et dans ce répertoire, Beaumont and Fletcher et Shakespeare, la troupe de Sir William Davenant et la troupe de Sir Thomas Killigrew, c'est-à-dire 2 aristocrates qui sont les 2 directeurs de ces troupes auxquelles ont été affectés 2 théâtres à Londres. Cette décennie de 1660 est évidemment décisive pour la résurrection du répertoire qui ne se jouait plus depuis 1642 et qui entraîne à la fois le fait de puiser dans l'immense répertoire accumulé par le théâtre élisabétain et des premières décennies du XVIIe siècle, et qui implique aussi, comme je l'ai évoqué avec le Richard II de Théobald, une révision, une réécriture, une adaptation de ces pièces qui les transforment très profondément pour les nouvelles normes de représentation, théâtre fermé, rôle féminin joué par des femmes, ou les nouvelles normes linguistique, modernisation du texte, ou encore les nouvelles normes du décorum, de la civilité, qui ne supportent pas un certain nombre des accros à la bienséance qu'on rencontre dans le théâtre élisabétain. Alors, d'après Théobald, ce manuscrit le plus ancien, que l'on peut dater de la décennie 1660, 60 years is above 60 years standing, serait de la main du régisseur de la troupe de Davenant, Mr. Downes. Et le régisseur étant ce personnage clé dans les troupes de théâtre, ou bien appelé, comme je l'avais signalé la fois dernière, « old prompter », c'est-à-dire celui qui, recevant un manuscrit d'une pièce, y portait toutes les annotations nécessaires à la représentation, indiquant les entrées des acteurs, certains des jeux de scène, les accessoires qui devaient être présents sur le théâtre, les moments où les musiciens ou la musique étaient présentes, donc tout ce que l'on appelle le prompt book, c'est-à-dire un manuscrit de la pièce, mais préparé pour la représentation de la pièce. Et la première tâche que pouvait avoir à faire ce régisseur, c'était de copier la pièce telle qu'elle avait été reçue, peut-être sur un manuscrit imparfait ou fautif, de façon à ce que le prompt book soit lisible, organisé et le support de la représentation. Donc Theobald prétend que ce premier manuscrit qu'il possède est un manuscrit qui a été copié par Mr. Downes, le régisseur, le old prompter de la compagnie de Davenant. Et il en trace une histoire qui le mène jusqu'à lui, puisque, dit-il, ce manuscrit est passé de la main de Mr. Downes à celle d'un des acteurs, peut-être le plus fameux, de la troupe de Davenant, Thomas Betterton, et que Thomas Betterton l'aurait remis à a noble person, qui est peut-être le protecteur, le comte Orrery de Theobald. Donc une filiation qui va de manuscrit copié par le régisseur jusqu'à Theobald. Et en amont du manuscrit, une histoire de la pièce qui aurait été contée à Theobald par le dernier possesseur du manuscrit, sans doute le comte Orrery, disant que cette pièce avait été écrite par Shakespeare lorsqu'il s'était retiré à Stratford-upon-Avon et que cette pièce avait été écrite par lui comme un présent offert à a natural daughter of his, une fille naturelle qui l'aurait eue. Et ici, l'allusion est assez obscure, puisque aucune anecdote n'a jamais attribué de fille naturelle à Shakespeare. En revanche, Davenant a été considéré par la tradition comme un fils naturel de Shakespeare, ce qui établissait la continuité ou rétablissait le lien entre Shakespeare et la reprise des représentations de théâtre par la troupe de Davenant au début de la décennie 1660, pendant la période de la Restauration. Donc l'allusion pourrait être liée avec l'épouse, Lady Mary Davenant, de Davenant, non pas elle comme fille naturelle, mais finalement comme épouse d'un fils naturel de Shakespeare, et ce serait évidemment à travers elle que le manuscrit aurait pu être transmis à la troupe, ensuite copié par Downes, acquis ou possédé par Betterton, et finalement tombant entre les mains de Theobald. Il évoque aussi, Theobald, le fait qu'il possède deux autres manuscrits, plus récents, « Not be quite so old », donc postérieur à ce premier manuscrit datable des représentations, non pas de cette pièce, mais du répertoire shakespearien et autres, par la troupe de Davenant. Et de ces deux manuscrits, l'un, dit-il, a été acquis par lui « at a very good rate », donc à un bon prix, et l'autre, ou peut-être le même, et c'est important, « is much more perfect and has fewer flaws and interruptions in the sense ». Ce manuscrit est beaucoup plus parfait, comporte moins d'incohérences, « flaws », moins de lacunes, « interruptions », dans le sens que, on peut supposer, le manuscrit de 1660. On peut comprendre cette allusion assez complexe et obscure de Theobald à la possession de ces trois manuscrits, qu'il a un manuscrit qui a été copié au début des années 1660 pour des représentations de théâtre par le régisseur de la troupe de Davenant, et qu'il possède un manuscrit plus récent, mais en même temps plus long, plus complet, sans coupure ou sans incohérence, peut-être plus fidèle au premier texte écrit par les auteurs de Double Falsehood au début du XVIIe siècle, et dont le manuscrit de Downes, le manuscrit de Davenant, pourrait être une adaptation ou un abrégement. Et du coup, on voit se dessiner à travers ce texte un peu opaque de Théobald une histoire du texte qui supposerait qu'il y a dans une copie plus récente quelque chose qui survivrait de l'œuvre dans sa version la plus longue et que le manuscrit copié par le régisseur de Davenant serait déjà une adaptation ou un abrégement avec des interruptions et des flows, des incohérences et des coupures de la version longue de la pièce. Le récit ainsi reconstruit n'est pas invraisemblable, puisque l'on sait que pendant la Restauration, et par la troupe de Davenant, et Davenant lui-même, il y a des adaptations très libres, qui raccourcissent et qui transforment les textes shakespeariens. Un exemple est en 1664, l'adaptation par Davenant d'une pièce écrite en collaboration par Shakespeare et Fletcher, les Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins sur lesquels je vais parler cet après-midi dans le séminaire, et que Davenant rebaptise The Rivals. Et lorsqu'on compare, puisqu'ici on peut comparer le texte de 1634 de The Two Noble Kinsmen avec l'adaptation de 1664 de Davenant, on voit bien le travail qui est fait, c'est-à-dire d'abord amputation. Dans l'adaptation, Davenant supprime pratiquement totalement le premier acte et le cinquième acte des Two Noble Kinsmen. Réécriture. La fin est totalement transformée et elle devient comique là où la fin des Two Noble Kinsmen appartient classiquement au répertoire de la tragicomédie. Et puis, certains personnages sont totalement supprimés et de nouveaux noms et de nouveaux états sociaux sont donnés aux différents protagonistes. On voit donc une très profonde transformation, The Rivals, par rapport à Two Noble Kinsmen. On pourrait donc supposer qu'un même travail a été fait sur un manuscrit du Cardenio de 1613, à travers l'une ou l'autre de ses copies, pour une adaptation de la pièce au milieu du XVIIe siècle, dans la décennie 1660, et ce serait là ce manuscrit qui est le plus précieux pour Théobald parce que le plus ancien, dont il disposerait. On voit donc que reconstruire archéologiquement l'histoire de la pièce, si l'on admet donc que pour son adaptation shakespearienne, Théobald a utilisé le manuscrit qui était le plus ancien, et si l'on considère que ce manuscrit était déjà le résultat d'une adaptation et révision opérée par Davenant dans les années 1660 sur le manuscrit ou une des copies du manuscrit de 1613, on doit supposer un chaînon intermédiaire entre la pièce de 1613 et la pièce de 1727-28, ce chaînon intermédiaire étant une adaptation qui n'a pu que raccourcir, modifier, transformer la pièce du début du XVIIe siècle pour les nouveaux usages et les nouvelles contraintes du théâtre pendant les années 1660. Et du coup, c'est peut-être à cette adaptation telle qu'on la rencontre comme trace dans le manuscrit copié par Downes qu'il faudrait attribuer deux éléments frappants dans la pièce de Théobald, mais qui peut-être ne serait pas de sa propre plume d'éditeur, mais hérité du manuscrit de 1660. C'est-à-dire, d'un côté, le fait que les personnages de Cervantes ont de nouveaux noms. On peut supposer que dans la pièce de 1613, Cardenio, ils avaient gardé leur nom du Quichotte. Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorothea. Dans la pièce de 1727-28, ils s'appellent Giulio, Leonora, Violante, Enriquez. Et donc, il y a là une transformation, mais est-ce la transformation de Théobald ou est-ce la transformation opérée 60 ans avant par l'adaptation par la troupe de Davenant? Et le deuxième trait qui est frappant, évidemment, dans la pièce de 1727-28, c'est le fait que ni Don Quichotte, ni Sancho, ni le barbier, ni le curé n'y apparaissent. L'histoire des amours et unions de Giulio et Leonora, Cardenio Lucinda, et de Violante Enriquez, Dorothea Fernando, est le seul élément d'intrigue de la pièce, sans présence de Don Quichotte et de Sancho. Doit-on attribuer cette élimination de Don Quichotte dans une pièce pourtant liée, adaptée, provenant du Quichotte à Théobald, ou était-ce déjà le cas dans l'adaptation des années 1660, ce qui laisserait ouvert l'hypothèse selon laquelle, dans la pièce de 1613, comme dans la Commedia de Guillén de Castro, ou comme dans la pièce de Pichou que j'avais étudiée l'année dernière, l'intrigue des jeunes amoureux se trouvait maintenue dans ses liens très étroits avec la présence de Don Quichotte et de Sancho. On voit donc que l'histoire des manuscrits que Théobald prétend posséder, et en particulier de ce rapport entre une version plus longue mais plus récente et une version plus courte avec des interruptions, des coupures, des raccourcissements mais plus anciennes, et qui renverrait donc à un plan de book du milieu du XVIIe siècle, des années 1660, permet rendre plus complexe finalement la relation entre 1728 et 1613 en supposant cette chaînon intermédiaire qui lui pourrait être déjà le lieu où se sont transformés les noms des personnages et où fut exclu Don Quichotte de la pièce qui racontait les amours des jeunes gens. C'est le premier argument, un argument finalement matériel. Théobald oppose à cette idée qu'il est incroyable qu'une telle pièce ait pu disparaître, le fait qu'il en existe des manuscrits et que certains ont été achetés par lui à un bon prix, mais dans le texte du Privilège royal, vous vous souvenez qu'au contraire, il est dit que c'était à grand prix que Théobald avait acheté un manuscrit de la pièce. Et d'autre part, il y a des manuscrits qui ont circulé depuis le milieu du XVIIe siècle, copiés eux-mêmes sur la pièce que Shakespeare avait écrite pour sa, entre guillemets, fille naturelle, et qui ont été transmis jusqu'à Théobald. Le deuxième argument qu'il doit développer, c'est un argument qui doit répondre à un doute quant à l'authenticité de shakespearienne de Double Falsehood, qui, dit-il, s'il était vrai, serait plus sérieux, et qui était un argument avancé par ses détracteurs en termes chronologiques. Puisque, disait-il, l'intrigue de Double Falsehood est construite sur une nouvelle contenue dans Don Quichotte, elle ne peut pas avoir été écrite par Shakespeare pour des raisons chronologiques. Alors, l'idée ici, c'est que pour ses détracteurs, qui n'étaient peut-être pas très au fait de la chronologie des œuvres, Shakespeare n'avait pas pu connaître le Quichotte. Or, Double Falsehood est a tale qui est built upon a novel in Don Quixote. puisque l'histoire, et donc l'histoire de cette nouvelle telle qu'elle est présente dans Don Quichotte, si on suit une chronologie qui fait que Shakespeare n'a pas pu avoir connaissance du Quichotte, finalement, la pièce ne peut apparaître que comme une falsification. Alors, dans la première édition de la pièce, c'est-à-dire dans sa première préface au début 1728, Théobald récuse cet argument en rappelant, dit-il, que Don Quichotte a été publié dans l'année 1611, alors que Shakespeare n'est mort qu'en 1616, ce qui laisse, disait-il, un intervalle de temps suffisant pour qu'il ait pu s'emparer de la novel. Premier trait intéressant, c'est le fait que cette histoire des amours de Julio Cardenio et Leonora Lucinda est désignée comme a novel. The tale of this play being built upon a novel in Don Quixote. Alors que, effectivement, l'histoire dans le Quichotte n'est pas désignée comme telle, puisqu'elle est constamment entremêlée avec les aventures de Don Quichotte et de Sancho. Et de ce point de vue-là, elle est totalement distinguée de la novella del curioso impertinente, de cette histoire du curieux impertinent qui est totalement détachée des aventures de Don Quichotte et de Sancho, puisqu'elle est lue à haute voix par le curé au personnage de la historia réunie dans l'auberge. Mais au XVIIIe siècle, on voit que certains des éléments dans le Quichotte sont transformés en nouvelles plus ou moins autonomes, ce qui pourrait déjà laisser supposer qu'elle peut être détachée de la présence et de la personne de l'Hidalgo et du cavalier andante, et que du coup, cet horizon de réception du Quichotte, dans lequel on peut puiser des nouvelles très librement, qu'elles aient la forme déjà d'une nouvelle inscrite dans l'histoire, curioso impertinente, ou qu'elles soient pensées comme des nouvelles que l'on peut détacher en les reconstruisant chronologiquement, puisqu'évidemment, dans le cas de Cardenio, il faut redéployer selon un ordre séquentiel ce qui est raconté de manière constamment rétrospective par les personnages dans le Quichotte. Mais on voit très bien que ce qui est un des traits derrière cette étude, c'est-à-dire le fait de comment a été lu le Quichotte dans les premières années ou décennies de sa circulation. L'idée que le texte de Cervantes, la Historia de Cervantes, était un répertoire de novellas, de novels, que l'on pouvait puiser, adapter pour la scène, ce qui avait été le cas avec les premières pièces, mais sans abandonner Don Quichotte. Est-ce qu'il pourrait être le cas au début du XVIIIe siècle, mais en abandonnant Don Quichotte, ou peut-être au milieu du XVIIe, définit un horizon de réception, de lecture, d'appropriation du Quichotte qui peut, a posteriori, paraître paradoxal, puisqu'évidemment, il porte l'attention sur ce qui, dans le Don Quichotte, n'est pas Don Quichotte, n'est pas lié à l'intrigue fondamentale des aventures et mésaventures de l'Hidalgo. Premier trait intéressant dans cette citation, le deuxième, et je vais terminer avec là pour la première heure, pourquoi est-ce que Théobald dit que le Don Quichotte was published in the year 1611, a été publié l'année 1611 et, comme tout le monde le sait, Don Quichotte a été publié avec la date de 1605. Et certains critiques ont supposé que cela signifiait que Théobald avait eu accès au registre de la Stationer's Company, parce que dans ces registres, Shelton, le traducteur du Quichotte en anglais, et son éditeur, le Stationer Blount, avaient enregistré, entered leur pétition, leur réclamation pour un writing copy sous la date de 1611, même si le livre a été publié en 1612. Cela supposerait que Théobald fait référence à la traduction anglaise du Quichotte et qu'il connaissait le document de la Stationer's Company qui datait de 1611 et non pas comme la page de titre 1612 ce texte. Cette hypothèse qui est la plus courante, il faut bien le dire, dans ce qui a été écrit sur la préface de Théobald à Double Falsehood, ne tient guère, me semble-t-il, particulièrement parce qu'il est clair que Théobald fait allusion à la publication du Don Quichotte dans sa langue originale et qu'il fait allusion, du coup, à une des éditions du Quichotte, celle de 1611, qu'il possédait dans sa bibliothèque. On a la chance d'avoir le catalogue de vente imprimé de la bibliothèque de Lewis Theobald en date du 23 octobre 1744. Après sa mort, sa bibliothèque a été mise en vente aux enchères et un catalogue imprimé par le libraire chargé de la vente aux enchères a été publié. Et l'on voit que Theobald possédait, c'est le numéro 193 du catalogue, Don Quixote in Spanish, 1611. Donc, une édition en espagnol de 1611, c'est l'édition seconde de Bruxelles, puisqu'à Bruxelles a été publiée une édition en 1607, puis ensuite une édition en 1611 par Roger Velpius et Huberto Antonio, impressores de sus altezas, imprimeurs du vice-roi des Flandres, et que Théobald possédait cette édition et a pu, dans un premier temps, penser, ou par un lapsus, dater la publication du Quichotte à partir de la date de l'édition en espagnol qu'il possédait. Et c'est effectivement l'édition la plus ancienne que possède Théobald, puisqu'il en possédait une autre qui est décrite sous le numéro 28 dans le catalogue de la vente, comme Don Quixote in Spanish with cuts, c'est-à-dire avec des illustrations, deux volumes, a neat letter, une belle typographie. Aucune date n'est donnée, mais on peut penser, étant donné que le catalogue sur lequel je reviendrai peut-être de la bibliothèque de Théobald démontre son goût de bibliophile, à la fois pour des éditions anciennes et d'autre part pour des textes rares, qu'il s'agit bien de la première édition illustrée du texte espagnol. Cette édition a effectivement été publiée en deux volumes, avec des images, à Bruxelles, en 1662, par Jean Montmartre, avec un titre d'ailleurs un peu différent des premières éditions, « Vida y hechos, la vie et les faits, les hauts faits, de l'ingenioso caballero de la Mancha ». Et donc, il est probable que Théobald possédait une édition non illustrée 1611 Bruxelles, et c'est de là qu'il date la publication du Quichotte, et d'autre part qu'il possédait aussi en espagnol la première édition illustrée du texte qui est de 1662. Entre parenthèses, on peut rappeler, pour montrer ce destin européen du Quichotte, que la première édition illustrée tout court du texte n'était pas une édition du texte en espagnol, mais a été l'édition du texte dans la traduction hollandaise en 1657 à Dordrecht, et c'est la première fois qu'il y a des images à l'intérieur d'une édition du Quichotte, mais on le voit ici dans un texte qui n'est pas celui de l'original espagnol. On peut donc penser qu'il y a un intérêt particulier de Théobald pour la littérature et la langue castillane. On rencontre dans sa bibliothèque une édition des Plantins de 1595 de la Celestina. On y rencontre un Tratado de las Comedias, un traité des Comedias de 1618, et un manuscrit de sa plume qui apparaît comme Lope de Vega, mais ça c'est une erreur du notaire, Lope de Vega, enfin du libraire, a Spanish poet with his life. Et c'est un manuscrit de Théobald, qui donc avait écrit, texte perdu, une étude et une vie de Lope de Vega. Donc il est très peu probable qu'il fasse allusion à une traduction anglaise comme date de publication du Quichotte. Il est très vraisemblable qu'il fait allusion à l'exemplaire le plus ancien du Quichotte qu'il possède, 1611. Et d'ailleurs, dans la réédition de cette préface, quelques mois en février de 1728, dans la seconde édition de Dobulfolsud, il va corriger cette erreur, puisqu'il dit que la première partie de Don Quichotte was published in the year 1605, dans l'année 1605, c'est-à-dire pas moins de 11 ans avant la mort de Shakespeare. Donc correction chronologique pour la date de publication du Quichotte, mais même argument, Shakespeare a eu tout le temps de connaître, de lire le Quichotte pour en tirer l'intrigue de la novel de Cardenio et ainsi la porter sur la scène. Donc c'est une réfutation d'un argument chronologique mal fondé par les détracteurs peu au fait de la date de publication du Quichotte, qui voulait montrer que Shakespeare était nécessairement antérieur à cette publication et que donc, du coup, Dobulfolsud ne pouvait pas être, du fait qu'elle était une adaptation du Quichotte, attribuée à Shakespeare. C'est donc là le second argument. Selon nos usages, je vais peut-être faire une petite pause de 5 minutes jusqu'à 11h10 et reprendre l'analyse de la suite du troisième et dernier argument de Théobald et d'autre part ensuite de réfléchir sur les problèmes que pose l'histoire telle qu'il la narre dans cette préface. Donc on prend 5 minutes de petit repos, si vous voulez, et on reprend à 11h10.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.